à Intention numérique. Et bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial entrevue en direct de la COPS. Et aujourd'hui, on reçoit M. Mario Asselin.
Bonjour Sylvain.
Député de Vanier pour la CAQ.
Vanier-Rivière.
Vanier-Les-Rivières, faut
puisque
être précis.
Tu veux nommer mon nom, là.
Oui.
Vanier-Rivière.
Vanier-Les-Rivières.
Et
on est là en direct là, du Hall de l'innovation à la COPS pour jaser de vous. Je pense que ça nous intéresse de savoir qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez. On va en parler aussi, mais aussi de toute votre implication au niveau de l'éducation, du numérique en éducation.
On n'aura peut-être pas assez de 40 minutes.
Je le sais qu'on va manquer de temps, c'est ça.
Ça reverra.
Pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, LinkedIn, Twitter, je sais que le son n'est pas d'une qualité incroyable. Vous aurez accès au balado en version montée, améliorée, dans vos oreilles très bientôt là, sur Spotify et votre plateforme favorite. Avec
je
moi.
Je te dis bonjour Sylvain, mais je tiens à dire bonjour à Marie-Hélène.
Ben oui, et on est là aussi, mais il allait nous présenter, il nous y plie rarement, mais là il est très. On était tous très excités de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je pense que on a reçu le fondateur de la COPS aussi qui. C'est une histoire. Vous êtes c'est des monuments. Là, que, on est bien énervés.
Je peux peut-être en rajouter une couche. Imagine-toi, en 2004, j'ai reçu mon premier honneur de la COPS, un prix chapeau.
Wow! Alors, ah ben là, je suis contente de dire que j'ai reçu mon prix chapeau il y a 2-3 ans grâce à Mme Bertineau. On est frères et sœurs de chapeau.
Donc, je dois dire que lorsque j'ai invité M. Asselin, je me suis dit, il y a des chances que M. Asselin accepte parce que c'est un fidèle auditeur du balado Intention pédago numérique.
Effectivement, j'ai écouté les 16 épisodes. Et puis, chaque fois que j'en ai la chance, je relaye vos contenus. C'est très professionnel ce que vous faites. Je vous félicite.
Mon Dieu, je pense que c'est la première fois qu'on se fait dire que le premier terme, c'est professionnel.
Non, mais... c'est très bien fait, avec un peu d'humour. Oui. Mathieu n'est pas là, là pour se faire agacer, alors on va te faire...
Vous l'entendez que c'est vraiment un fidèle auditeur d'Intention pédago numérique. Oui. Mais là, j'aimerais qu'on revienne à la base. Parce que moi, là, je vous ai lu, j'ai lu votre descriptif sur Maintenant X. On s'ennuie Twitter, mais on va dire X. Puis là, Mario Asselin, député de Vanier-les-Rivières. Puis ancien directeur d'école. Oui. Mais le chemin, on ne l'a pas au complet dans un descriptif sur X sur Twitter. Fait que vous êtes qui? On repart de où, là, M. Asselin?
En 98, je suis devenu directeur à l'Institut Saint-Joseph. Et puis, pas tellement après, on a eu les expérimentations autour de ce qui était à l'époque la nouvelle réforme. Mais j'avais décidé de prendre ça par le numérique. Et puis, j'ai fondé une classe où mes élèves en 5e et 6e année, regroupés dans une même classe, avaient chacun un blog. Et puis, on était en 2002. Alors, imaginez-vous, dans une école primaire, 55 élèves qui bloguent à tous les jours, puis beaucoup, beaucoup, souvent par jour. Alors, ça nous a amenés dans le feu de l'action. Et puis, on a eu plein de problèmes à cause de ça. Mais en même temps, plein d'opportunités. Alors, moi, j'avais quelques semaines d'avance avec mon blog, Mario Tutogo. Et puis, ça m'a amené très loin, assez loin, que j'ai dû sortir de l'école. J'ai travaillé en France, j'ai fait plein de ma deuxième carrière a été dans le numérique. J'ai été actionnaire de Expedia. En 2005, j'ai quitté l'école. Et puis, c'est ça qui m'a amené. J'ai eu la brillante idée, je ne sais pas si c'est brillante, mais en 2008, j'ai demandé à M. Legault de le rencontrer pour faire du journalisme citoyen. Et puis, il m'a dit, on fera pas ça sur un coin de table, on va faire une vraie rencontre. Alors, on a fait un genre de dîner. Et puis, après la rencontre, je lui ai offert de se retourner puis d'être tous les deux devant un ordinateur, parce que j'avais une communauté qui était large. Et puis, malgré l'avis des gens qui l'accompagnaient, qui lui ont dit « Faites pas ça, M. Legault », lui, il a dit « Ben, Mario me le demande ». Je dis « Oui ». Alors, on a débriefé sur YouTube, d'ailleurs. Alors, c'est comme ça que je suis entré en politique, parce qu'à la fin de l'entrevue, il m'a dit « Est-ce que tu veux m'aider dans mon projet ?» J'ai eu le malheur de dire oui. C'est ça qui m'a amené en politique.
Vous êtes un vrai pionnier. Puis moi, ce qui m'accroche dans ce que vous dites, ce qui m'inspire, c'est vous étiez un pionnier, vous avez démarré des choses qui n'étaient pas encore nécessairement très populaires, mais vous avez rencontré des difficultés. Vous avez vraiment débroussaillé pour que les autres puissent vous suivre dans votre chemin. C'est pas toujours facile d'être le leader, mais en même temps, là, vous avez ouvert la porte pour tous les autres. Vous avez inspiré l'éducation.
Oui, puis je suis content des difficultés qu'on a eues. D'ailleurs, ce matin, j'assistais à un panel sur l'intelligence artificielle, puis Mme Anne Nguyen parlait de la tolérance qu'on doit avoir. Puis c'est tellement vrai. À cette époque-là, là, on avait de la boue dans le toupette. J'avais un toupette. Et puis, c'est vrai qu'on s'en rappelle pas, mais il faut tolérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quand on innove avec les débuts d'intelligence artificielle, on s'en rend compte. Il faut avoir une tolérance à l'erreur.
Il faut vraiment accepter de sortir de sa zone de confort quand on est un pilier, un pionnier. C'est vraiment tout à votre honneur, parce que c'est pas facile.
C'est gentil. Mais c'est d'autant plus vrai que j'ai fait un ACV en 2018, et puis ma conversation est très hésitante. Probablement que les gens s'en rendent compte. Et puis, il m'arrive qu'il y a des gens qui savent pas que j'ai fait ça. Et puis, les gens sont durs avec moi dans ce temps-là. C'est arrivé encore récemment avec M. Moret. C'est arrivé avec Olivier Niquet. Mais le fait d'être en communauté, les gens viennent me défendre. Et puis ça m'aide beaucoup. Donc, je conseille aux gens de la tolérance, c'est vrai, mais c'est encore beaucoup mieux quand on est en communauté comme je l'ai été. Alors, le fait d'avoir un grand groupe depuis le début de la journée que je suis ici à la COP, je me fais accoster par plein de gens qui me reconnaissent. Le fait d'avoir existé numériquement depuis très longtemps, ça m'aide tellement. Ça doit d'ailleurs aider tout le monde, incluant Sylvain qui va vivre ça un jour, lui aussi.
La trace qu'on laisse sur les réseaux, tu sais, autant on peut dire que ça peut être négatif, on parle beaucoup de données qui restent, mais je pense qu'elle peut être franchement positive puis nous amener ailleurs, nous faire réfléchir aussi à justement comment cet impact-là peut avoir un impact sur les gens qu'on rencontre, puis comment on se fait redonner ça, on se fait relancer la balle. Vous avez toujours été très présent sur les médias. On a parlé tout à l'heure, vous avez écouté religieusement tous les épisodes d'Intention Pédago Numérique. Je me souviens avoir partagé des billets de blog très personnels là, avec pas d'intention quoi que ce soit que vous avez lu. Je pense qu'il y a de ce vrai-là et de cette authenticité-là qu'on retrouve chez beaucoup de personnes en éducation, je pense. Et qui,
c'est gentil de le dire, mais...
Qu'on ne retrouve pas toujours en politique.
Je suis toujours fait un devoir d'être le plus constructif possible. Puis ma présence en politique, même du point de vue de mes adversaires, je ne suis pas tellement belliqueux de nature. Donc, ça se traduit évidemment par la politique.
En effet.
Vous avez parlé de la communauté, puis c'est exactement là où est-ce que je m'en allais. Moi, on m'a parlé... Sylvain, tu as parlé à Mario Asselin... Moi, il a eu un impact incroyable dans mon développement professionnel. C'est grâce à lui que je suis arrivé sur Twitter à ses tout débuts. Il y avait 4 personnes, y compris Mario Asselin, qui partageaient des choses. Puis on avait des dîners de Twitterature.
Dîners pédagogiques, oui.
Des dîners pédagogiques. Ça échangeait. Ça commençait déjà à l'époque autour de Twitter, de vous, de Bruno Gugalmietti.
D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez interviewé Simon Duguay, qui est un fidèle successeur d'un gars que j'ai connu dans le temps qui s'appelait François Guitté. Et puis, la longue tradition de Rochebelle est maintenue par la présence de Simon. Mais c'est vrai que sur les réseaux, on est quand même quelques-uns parmi les dinos blogueurs. Et ça a construit notre réseau. C'est vraiment fun.
Cette communauté-là, pour vous, est-ce que ça a été un moteur de développement personnel?
Ah, vraiment. Un moteur de développement humain, je dirais, parce que le fait d'être entouré comme ça, ça a fait qu'en dehors des réseaux, les gens venaient nous voir pour nous raconter aussi leurs difficultés et leurs bons coups. Et puis, ça m'a amené à vivre beaucoup d'expériences, dont un des premiers blogueurs était mon jeune, qui a aujourd'hui 29 ans. Et puis, le fait d'avoir vécu ça en famille, ça nous a fait exploser, disons, dans notre philosophie. Et puis, là, j'ai des petits-enfants, puis des fois, on leur raconte des anecdotes qu'on a vécues quand on était jeune. Et puis, le fait d'avoir vécu ça ensemble, chacun a des références de tout ça. Alors, c'est une bonne chose.
C'est tellement inspirant, c'est beau d'entendre ça.
Bien, je trouve ça super inspirant parce que c'est des choses que vous et moi, on vit aussi aujourd'hui, mm-hmm. au jour le jour. Notre communauté nous anime, nous force à aller plus loin, nous invite à partager, nous force aussi des fois à nous re-questionner sur ce qu'on fait.
Et au-delà des sujets sur lesquels on peut avoir des divergences, l'esprit de camaraderie qu'on développe sur les réseaux reste, je peux vous le dire. Et puis, évidemment, je vous écoute, mais toutes les anecdotes que vous racontez construisent ce corpus de bonne entente-là.
C'est rare qu'on entend associer réseaux sociaux et camaraderie. Je trouve ça beau qu'on mette ça de l'avant parce que, tu sais, je veux dire, se battre contre ce qui est partagé de négatif ou les gens qui se donnent à cœur joie sur les réseaux en étant, justement, tirant ça par le bas. C'est de se dire que, dans le fond, on va juste pas s'en occuper puis écraser ça en mettant le positif de l'avant,
en
partageant. C'est
quand même curieux que tu dis ça parce que j'en discutais avec Clément Laberge qui faisait partie des réseaux là, pas tellement longtemps. Et puis, mes collègues politiciens me demandent comment ça se fait que toi, Mario, il y a rarement de trolls sur tes univers. Puis c'est la raison pour laquelle je peux me permettre de faire des folies puis d'être encore présent, c'est qu'il y a plein de gens qui interviennent lorsque quelqu'un, comme c'est arrivé la semaine passée, a fait. Le fait d'être entouré par une vaste communauté, ça nous protège un peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois des énergumènes qui arrivent, mais en général, là, c'est la clé du succès. Là.
Oui, le respect que vous accordez à cette communauté-là vous revient aussi. Hein? Vous l'inspirez, les gens sont redevables de ce même respect-là.
C'est gentil de le dire.
Et ça, au-delà de la partisanerie, de la politique, puis des divergences d'opinion qui sont totalement normales aussi dans une société démocratique.
Même les gens avec lesquels j'ai des échanges de points de vue divergents nous le font sentir, ce respect-là, entre guillemets, un ostinage avec un maroiriski ou des gens qui ne pensent pas la même chose que nous. En ligne, on dirait qu'on tient compte de cet esprit-là.
Mais c'est important de ne pas toujours être... de confronter ces divergences d'opinion parce que c'est ça qui nous fait avancer aussi. De ne pas s'entêter à rester stagnant, mais l'échange, le vrai échange, quand on n'est pas d'accord, moi, je trouve ça super enrichissant. Puis c'est comme ça qu'on avance puis qu'on évolue aussi.
Tout à fait.
Donc, est-ce que vous diriez que vous tirez plus de positif que de négatif des joutes sur les réseaux?
C'est sûr, dans mon cas, même si c'est surprenant de le vivre comme ça, moi, la présence, elle est constructive. Pour un échange, disons, décevant que j'en ai 15-20 qui sont positifs et constructifs. Alors, je ne peux que dire oui à ce que tu viens de dire.
Ça dépend aussi de notre façon de le voir, de notre mindset. Non, excusez pour l'expression anglaise. Est-ce que je me concentre sur le positif ou je me concentre sur le négatif?
C'est sûr que notre propre attitude à être constructif rejaillit sur la toile.
On s'appelle Intention pédago-numérique. On s'entend. On va parler numérique, mais j'aimerais ça aussi qu'on parle d'éducation et de pédagogie à la fin, s'il nous reste du temps, s'il nous reste d'énergie, puis si les gens ne sortent pas dans les corridors. donc, au niveau du numérique en éducation, je sais que vous êtes très à jour, vous suivez ce qui se passe. Puis on a aussi beaucoup de questionnements par rapport à la place du numérique à l'école, en éducation. Vous, qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi votre opinion à ce sujet-là?
Bien, moi ce qui m'impressionne beaucoup, c'est comment on doit faire confiance à la jeunesse. Je me souviens, quand j'étais directeur d'école, je sortais pour demander à un jeune, « Peux-tu m'aider? J'ai tel problème avec le PowerPoint. » Je savais que les jeunes m'aideraient. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle en particulier. On ne doit pas avoir peur de demander aux jeunes, est-ce que vous pouvez apporter votre expertise? Parce qu'ils ont une grande longueur d'avance. Et dans les écoles en particulier, on n'a pas assez confiance aux jeunes. Il faut faire confiance aux jeunes.
Accepter en tant que pédagogue qu'on n'a pas toutes les connaissances. C'est ça. Mm-hmm. Parce qu'on est humain et qu'on peut apprendre des autres, même quand ils sont plus jeunes que nous. De ne pas avoir peur en tant que prof de se jeter, de sortir de sa zone de confort, parce qu'en tant que communauté, en tant que classe, on va s'entraider. C'est un message tellement essentiel que vous livrez, puis c'est quelque chose qu'on essaie de véhiculer beaucoup en éducation. C'est difficile parfois, mais...
Ça ne veut pas dire que les jeunes ne font pas des erreurs, ça.
Oui.
Mais le fait d'être entouré de jeunes qui baignent dans les technologies, ça fait en sorte qu'à la gang, on sait plus de choses et puis on va finir par s'en sortir.
On découvre ensemble, c'est ça la beauté. On fait des erreurs, mais on découvre ensemble, on s'entraide. C'est ça l'apprentissage à la base.
Effectivement.
On est là pour guider nos élèves, bien entendu, pour mettre un cadre, pour les amener à se questionner aussi sur leur utilisation de la technologie. Mais en même temps, c'est de leur faire confiance. Puis combien d'enseignants, de pédagogues, se freinent dans leur utilisation de la technologie parce que justement, ils ne se sentent pas à l'aise jusqu'au bout? Hein? Alors que bien souvent, les plus beaux projets partent quand tu dis à tes élèves, « Hey, j'ai une idée à matin, là, puis on va faire ça. » C'est pas encore tout à fait fignolé, là, je vais le peaufiner, là, mais êtes-vous bon là-dedans? Non, mais on va le devenir. Après, on se lance, puis des fois, c'est pas parfait la première année.
Mais non.
Mais la deuxième, c'est encore mieux, puis la troisième, c'est incroyable.
C'est enrichissant autant pour les élèves que pour nous. Il faut oser se jeter à l'eau.
Le temps d'écran.
J'avais l'habitude de dire que le principal collaborateur dans mon école, c'est l'éducateur physique. Parce que plus qu'il demandait aux jeunes de faire du sport, de faire de l'activité physique, plus est-ce que mes élèves pouvaient être devant l'écran. Alors, il était important d'équilibrer ça. Parce que, évidemment, c'est pareil avec mes enfants. Le temps d'écran, si il y a d'autres choses dans la vie, ben on peut leur en permettre un peu plus. Mais si il n'y a pas cet équilibre-là, c'est néfaste, là, c'est clair.
On gesticule, là, mais c'est parce que juste en avant de nous, on a le mentor gamer qui travaille justement à ce niveau-là avec les jeunes, à faire en sorte de trouver un équilibre de vie, une gestion plus saine, hein, les passionnés qui aiment les jeux vidéo, mais de dire « oui, c'est bien, ça peut me valoriser, ça peut me développer, mais il ne faut pas que j'oublie aussi de prendre soin de mon corps. »
T'es-tu arrêté de me dire qu'on fait une pub gratuite pour Game Mentor en ce moment?
Let's go! Hein?
Ils sont faciles à trouver, ils sont sur Facebook, ils sont sur Internet, puis leur logo, c'est un chapeau avec une manette qui remplace tes yeux. Fait que vous allez les trouver facilement. Au niveau de l'utilisation qu'on fait du numérique à l'école, qu'est-ce qu'on devrait viser pour nos jeunes dans notre utilisation du numérique? Qu'est-ce qui devrait être notre priorité? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être éviter si on veut, dans une optique, pas non plus les surcharger de temps d'écran?
Je vous dirais que la langue, la qualité de la langue, du point de vue qu'on est au Québec en plus et qu'on est entouré partout d'anglophones et évidemment plusieurs autres langues, on doit développer la fierté de communiquer en français. Par l'écrit autant que l'oral, évidemment, il y a toutes les choses qui existent du point de vue des deepfakes. Là, puis l'intelligence artificielle va être une grande menace par rapport à ça. Mais chaque fois qu'on a l'occasion de privilégier le français, il faut le faire.
Mais c'est donner des opportunités. Vous l'avez fait, vous en avez parlé tout à l'heure lorsque vous étiez directeur, d'offrir la possibilité aux jeunes d'écrire des billets de blog, d'en produire, d'être fiers de ce qu'ils produisent.
Et même,
d'être
il y avait des entendu. Jeunes qui avaient ils appelaient ça les petits carnetiers du devoir. Le devoir nous avait contactés, puis ils challengeaient les opinions politiques. Des enfants de 5e et 6e année dialoguaient avec les plus vieux sur leur vision de la politique. Ça a été très formateur par les jeunes.
Il me semble vous avoir entendu dire, lorsque vous étiez nous voir à l'externat, que à un moment donné, c'est correct là, de vouloir surveiller le français, mais ça devrait pas être les fautes d'orthographe qui nous arrêtent non plus. À un moment donné, de vouloir embarquer dans des projets puis de vouloir lancer les jeunes à justement s'investir là-dedans. La langue française, elle se développe, l'amour de la langue française, elle se développe, mais c'est pas vrai qu'on peut être parfait en partant.
De ma direction d'école, c'est d'être arrivé en classe un bon matin en leur disant « On a un problème avec les fautes, mais j'ai besoin de vos solutions. » Je vais piquer les élèves, entre guillemets, les professeurs n'étaient pas intervenus. Et c'est les élèves, à la fin de la journée, qui avaient trouvé la solution à ce problème-là de respecter. Et entre autres, ils se donnaient un délai. Là, il y avait quelques minutes, quelques jours, où il y avait le droit d'aller comme ça. Mais tant qu'il n'y avait pas un icône qui mettait sur leur billet pour dire, là, vous pouvez...
C'est beau, c'est prêt.
C'est ça. Et ça, c'est les jeunes qui l'avaient trouvé.
Ils trouvent leurs outils, ils sont capables. Ah il oui, faut juste les accompagner un petit peu là-dedans, en fond.
C'est vrai que la qualité de la langue, on parle des erreurs, des fautes que les jeunes peuvent commettre. C'est souvent là-dessus qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, on focus, mais... L'important aussi en arrière de la langue, c'est que c'est un vecteur de réflexion, d'argumentation, puis c'est ce que vous amenez aussi à vos élèves. C'est l'occasion que vous leur donniez par le blog de s'exprimer, de prendre la parole, d'apprendre à se connaître, c'est quoi mes valeurs, de s'intéresser aussi à ce qui se passe
Thérèse
autour d'eux.
Thérèse Laferrière et Stéphane Allaire, qui sont des chercheurs, avaient documenté ça dans une recherche. Et puis, la réalité, c'est que les jeunes écrivaient beaucoup plus à cause du numérique. Alors, ça nous a ouvert les portes.
Tout à fait. C'est fou. Sincèrement, c'est
moi, vous êtes mon coup de cœur de la COP. J'en ai des frissons. On est privilégiés actuellement. Là. Vous en rendez-vous compte?
Monsieur Asselin, l'éducation, on en parle beaucoup. On en a parlé beaucoup récemment. C'est un enjeu de société, notre éducation. On a l'impression que tout le monde tire la couverte de son côté. L'école devrait faire plein de choses. On a plein d'enjeux. Si vous aviez quelque chose à souhaiter pour l'école dans 5 ans, supposons-là, qu'est-ce qu'on souhaite?
Bien, évidemment, je pense qu'il faut rester exigeant pour l'école, même s'il y a plein de polémiques qu'on entend parler à droite et à gauche. Mais restons exigeants pour l'école. C'est une bonne chose qu'on le soit, même si des fois, j'aimerais ça qu'on baisse un peu le niveau de destinage qu'on entend. Il reste que l'école a une nécessité de l'exigence. Et puis, c'est sain que, comme société, on valorise les exigences. Alors, restons exigeants.
On veut un milieu éducatif qui l'est. On le veut pour nous aussi comme enseignants, d'où l'importance de tout le développement professionnel qui se passe ici. Mais on veut se sentir appuyé aussi. Donc, je pense que encore une fois, on vous l'a dit, mais on va vous le redire encore. Merci. Ça prend des gens qui supportent, des gens de tout horizon et des gens avec des parcours différents aussi. Donc,
vous êtes gentil du point de vue de ma condition de vénérable. Mais je vous remercie quand même de l'invitation. Non, mais vos émissions, vos balados sont importants parce qu'ils laissent des traces, on peut les réécouter. Moi, dans ma convalescence, entre guillemets, si vous saviez comment le numérique...
On vous a bercé dans votre convalescence avec nous.
À l'écrit, avec le rayonnement dans mes réseaux, si je prenais 15-20 minutes pour écrire, les gens ne savaient pas, eux autres, ils voyaient le résultat. Donc, le numérique, c'est important, même pour les gens qui ont des difficultés. En tout cas, moi, j'ai eu des difficultés et le numérique a été important dans ma vie. Alors, continuons de populariser les usages qu'on rencontre dès le tout jeune âge. Puis, merci de m'avoir invité.
Et on pourrait finir ça tout de suite, M. Asselin, mais j'aurais une dernière question pour
Allez-y,
vous.
Allez-y.
On était à la COPS. Pour vous, c'est quoi la COPS?
C'est un réseau vraiment important de gens qui ont une tolérance à l'erreur. Ils tolèrent les mauvais coups, ils tolèrent les erreurs qu'ils rencontrent. Et puis, la COPS eux-mêmes, ils ont passé différentes crises. Et c'est un groupe qui sont adaptés malgré tout. Alors, j'entendais Véronique parler tantôt de sa cible, de ramener ça à 2000 utilisateurs. C'est quand même beau de voir tout ce monde-là qui se réunissent dans le temps de Pâques, parce que le temps de Pâques, c'est la COPS. je pense qu'on est, on est chanceux d'avoir comme Québécois ce colloque-là.
On peut en être fiers.
Génial. Alors, les filles, je pense qu'on... En fait, je pense qu'on va arrêter l'entrevue-là, puis je vais être franc avec vous, parce que si l'entrevue, elle n'est pas trop longue, les gens vont l'écouter. Puis je pense qu'on a un beau message de porter dans cette entrevue-là. Puis on n'aura même pas besoin de faire de montage, fait que ça va être parfait. Moi, j'adore ça. Donc, M. Assain, encore merci,
oui, merci
d'être
beaucoup,
venu nous voir. C'est très apprécié.
Merci. Puis
merci de m'avoir reçu.
Je trouve que vous êtes inspirant et j'espère, vous avez une sagesse par rapport à l'éducation et j'espère que votre voix, elle est entendue là où vous travaillez. J'espère que les gens avec qui vous travaillez vous entendent et vous considèrent parce que vous êtes porteur de valeurs tellement importantes pour l'éducation. Merci.
Merci, Marie-Hélène. C'est gentil de le dire, mais je me sens bien avec mes copains politiciens. On a souvent des discussions âpres, mais on réussit toujours à s'entendre.
Merci. Génial. Beaucoup.
Merci. Merci, au revoir.
À bientôt.